Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage, pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Crâne, au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
Salut au Périgord, bonjour auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, un personnage, une pensée, ce qu'il en reste. Cette émission, elle fait suite à une série sur les thèmes sociaux qui agitent et mobilisent la politique de notre pays. L'économie en lien avec les relations sociales et la consommation énergétique, c'est le sujet dont il faut regarder l'histoire si on veut pouvoir inventer le futur de notre économie. Ce personnage s'appelle Adam Smith. On va en faire le tour et les détours. On va regarder un petit peu ce qu'il en reste. On dit aujourd'hui que l'économie qui a été propagée par la pensée d'Adam Smith, on dit qu'elle est à bout de souffle, qu'elle est au bout de sa vie, comme diraient les jeunes. Mais comment elle est née? Comment la définir? Voilà, c'est un petit peu cette économie et son histoire qu'on va regarder aujourd'hui. Alors on a un invité qui s'appelle Stéphane, qui est animateur comme nous sur RLP Business. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour tout le monde.
Tu es indépendant.
Ingénieur en informatique indépendant, tout à fait.
Sur les TPE depuis 1999. On t'a invité aujourd'hui parce que tu as une expertise sur l'international. Notamment, tu es allé en Thaïlande, tu es allé en Irlande, aux USA, et tu es intervenu en France. Donc tu as un regard sur l'entreprise et l'économie en général.
Oui, puis j'ai conseillé sur le forum offshore. J'ai travaillé un an dans une entreprise d'optimisation fiscale. Et je regarde aujourd'hui les gens choisir en fait leur juridiction en fonction de leurs besoins, ce qui est une nouveauté d'ailleurs dans notre histoire.
Très bien, tu vas nous être d'un grand secours pour cette émission. Et mon acolyte Stéphane.
Bonjour à tous et à toutes.
Donc pour commencer cette émission, on va rentrer encore sur une définition, en deux, trois mots. Est-ce que vous pourriez définir l'économie d'aujourd'hui, en deux, trois mots?
C'est une économie qui est déjà internationale, globale, basée sur du capital, hein, basée sur la technologie aussi, basée sur ce qu'on appelle un libéralisme économique, on l'appelle néolibéralisme. On verra plus tard que c'est pas forcément, il ne suit pas forcément les règles du libéralisme tel qu'il était défini par Smith. Je pense que ça résume assez bien la structure actuelle de
c'est de essentiellement l'économie. Sur du capital, du matérialisme.
Matérialisme. Beaucoup de flux financiers aussi maintenant. La dématérialisation, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas à l'époque d'Adam Smith.
D'accord. Voilà.
Steph ? Oui, et puis il y a une grande nouveauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le monde est polarisé. Aujourd'hui, nous parlons depuis l'Occident. Et l'Occident, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un tiers de la planète, c'est USA, Canada, Europe de l'Ouest, Australie, Nouvelle-Zélande. Économiquement, on va rajouter le Japon. Mais dès qu'on va en Asie, on se rend compte que les normes sont différentes. Dès qu'on va en Russie, on se rend compte que les transactions elles-mêmes, forcément, ne sortent pas de la même manière. Dès qu'on est en Afrique ou en Amérique du Sud, les choses se font différemment. Donc l'économie est mondialisée, mais en même temps, elle est séparée en différents pôles, qui ont parfois des intérêts différents, qui ont parfois des choses différentes. Donc il n'y a pas encore véritablement d'unification, de globalisation. On voit arriver des acteurs majeurs dans chaque pôle géopolitique qui tendent à s'imposer par la force, hein, qui vont dépasser les États, chose dont on parlera tout à l'heure. Hein. C'est une nouveauté par rapport à l'époque d'Adam Smith. Adam Smith, on va rappeler que c'est 1723-1790, c'est la révolution industrielle, il s'est quand même passé beaucoup de choses depuis. L'économie mondialisée d'aujourd'hui, justement, fait des interactions entre des cultures, des environnements qui ne sont pas forcément occidentaux, qui ne sont pas forcément issus de la culture d'Adam Smith.
D'accord. Alors, on accorde la naissance de notre économie à Adam Smith. Tu as commencé à en parler. C'est qui exactement Adam Smith? Est-ce que c'est un penseur, un philosophe, un économiste, un propriétaire terrien? Ce personnage, il vient d'où?
C'est un philosophe à la base qui enseignait la philosophie de la morale et l'éthique. Ce n'est pas un économiste. Il est plutôt plus proche des sciences humaines que de l'économie. À l'époque, il y a deux choses qui le caractérisent, c'est qu'il n'est pas économiste, et il y a l'époque qui caractérise son œuvre. Cette époque, c'est le, on va dire, le proto-capitalisme, enfin le proto-industrialisme et la proto-révolution industrielle, plus exactement, et le proto-capitalisme. Donc, on est très loin de ce qu'on est aujourd'hui, quoi. On est vraiment sur quelque chose d'embryonnaire.
D'accord.
Et dans son analyse, ça se ressent.
D'accord. Steph, sur Adam Smith, est-ce que tu as un rajout ?
Adam Smith, en fait, c'est quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était un Écossais. D'où l'intérêt peut-être pour l'argent à l'époque déjà. C'est une culture protestante, hein, donc qui est très basée sur le matérialisme. Il arrive juste après les idées de Hobbes, en fait, hein, qui a marqué le monde anglo-saxon. Hobbes, pour ceux qui situent pas, c'est le concept du Léviathan, du loup, d'un loup pour l'homme, le concept de l'autorité désincarnée, désintéressée pour assurer la paix de tout le monde. C'est une grande, grande pensée anglo-saxonne. Il arrive après Locke aussi, Locke, Tabula Rasa. Donc il se place dans ce mouvement de penseurs, très anglo-saxons, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on parle très peu des anglo-saxons, notre culture latine à nous, et c'est quelqu'un qui effectivement, si je me souviens bien de mes cours d'université, ce que j'ai vu sur Wikipédia, a commencé par effectivement faire de la philosophie, de l'enseignement, et puis qui a été sollicité, qui a essayé de modéliser, de faire une conception des flux financiers, qu'est-ce qui apporte le bonheur aux gens, comment un État peut se porter comme il faut, etc. Mais avec son regard de l'époque, qui était pré-révolution industrielle, et puis très stratifié, en fait, hein, avec des couches sociales très différentes. Hein, voilà.
Et du coup, pour vous, quel rôle il a ou quelle intention il aurait eu en créant ce modèle, même si il n'a pas créé de choses, mais...
C'est un excellent intellectuel qui a formalisé sa pensée, c'est tout. Après, les gens ont utilisé sa formalisation, mais ce n'est pas lui qui a créé ce qui s'est passé ensuite.
Et est-ce qu'il avait des intentions, à votre avis ? En mettant ça en avant, en déchiffrant cette pensée-là, est-ce qu'il avait une intention particulière ? Est-ce qu'il voulait propager une idée particulière de l'économie ? Ou il a juste fait un constat et il a mis sur papier, il en a fait un schéma
Il est bon de rappeler quand même que, étant un enseignant en sciences humaines, il a mis l'homme au centre de sa modélisation. Ce que je veux dire par là, c'est quand on voit la microéconomie aujourd'hui, elle est principalement mathématique. C'est quand même une des parties des sciences économiques qui est très, très mathématique. Lui, c'était l'humain avant tout. Donc c'est une vision tout à fait différente de ce que l'on a aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, il insiste beaucoup sur les droits régaliens et les conditions optimum d'activité. Donc, il se place sur les gens. Mais on est à une époque où l'entreprise et l'humain de base, comme toi et moi, sont encore très différenciés. Il y a vraiment, si tu veux, on sort à peine de la monarchie. Il y a la bourgeoisie qui s'est installée. Donc, tu as des grosses usines qui se mettent en place et tu as encore cette vision un peu marxiste de la société. Si tu veux, tu n'es pas à la fois ouvrier et entrepreneur. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, tu passes de patron de restaurant à Pôle emploi, tu bouges d'un secteur à l'autre. Donc, ces analyses de l'époque sont à contextualiser, je pense.
Oh, tout à fait.
À remettre, oui, dans l'époque. Ok, si on décortique un peu la machine libérale d'Adam Smith, quels sont ses points forts ?
Ses points forts, c'est d'avoir bien modélisé quelque chose qu'on connaissait depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme. Le troc. C'est-à-dire, il voit le marché comme étant un troc du numéraire contre des biens, du numéraire contre des services, mais on reste dans le principe du troc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit gagnant-gagnant. Et pour qu'il soit gagnant-gagnant, il faut que les deux parties soient satisfaites. L'acheteur pense avoir fait une bonne affaire et est très content d'avoir acquis un bien. Et le vendeur, lui, a dépassé son seuil de rentabilité et gagne de l'argent. Il y a beaucoup d'éthique et de morale dedans. Hein, c'est...
D'accord.
Voilà.
Pour toi, c'est un point fort, ça que...
Oui.
D'accord. Steph ?
Oh, ça s'explique, hein, parce que De manière historique, l'homme a toujours cherché un moyen de formaliser les échanges. Il faut se rappeler qu'à une époque, dans l'Antiquité, il y avait carrément des gens, au début de l'écriture, qui marquaient sur un registre qui donnait quoi contre quoi, lorsque c'était matériel ou non matériel, du travail contre des choses, avant que vraiment la notion de monnaie arrive. La monnaie ensuite représentait une valeur. Donc on se rappelle aussi cette époque des pièces carrées qui ont été interdites parce que les gens rabotaient les angles, parce que c'était en fait la valeur du métal elle-même qui était importante. À l'époque d'Adam Smith, l'argent avait encore une valeur, était rattaché à un étalon, était rattaché à quelque chose. On pouvait échanger sa monnaie ou alors ses bons contre quelque chose de tangible. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui a une pensée de la fin du XVIIIe siècle qui est extrêmement différente d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas parler d'économie sans se demander effectivement ce qu'est l'argent. Qu'est-ce que l'argent? À quoi il correspond? D'où vient l'argent? Quelle a été la logique qui a abouti à la création de l'argent? Et oui, lui, c'est intéressant de voir, c'est qu'il place l'humain dans ce parcours à un moment donné où on s'approche effectivement des grands mouvements financiers de plus en plus grands et où il est important dans une transaction qui est une notion de moralité, d'éthique et de confiance dans l'échange.
D'accord. Et les points faibles? Est-ce qu'il y aurait des points faibles?
Je crois qu'on l'a déjà évoqué, le fait que de parler aujourd'hui d'Adam Smith en faisant un modèle pour aujourd'hui, c'est déphasé au niveau historique, quoi.
Ce serait ça le point faible.
Des économistes aujourd'hui mettent Adam Smith à toutes les sauces. Alors que sa conception du marché, et ça je vous l'expliquerai, n'est pas celle du marché aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'en comparaison, quand on voit l'éthique et la morale que lui a poussée dans sa théorisation, elle n'apparaît plus du tout, elle a disparu, ou elle n'a même pas existé pour certains économistes d'aujourd'hui. Elle n'existe pas, quoi, cette histoire de morale. Même si actuellement, on peut quand même observer qu'il y a des réflexions pour réguler les marchés, pour avoir un certain cadre.
Mais à l'époque, l'argent avait encore une valeur réelle. D'ailleurs, il parle de valeur travail. C'est-à-dire, il est encore dans une logique où on échange des choses tangibles contre une notion d'effort.
Ouais.
Aujourd'hui, on dirait vendre du temps pour de l'argent. Seulement, la façon de faire de l'activité... aujourd'hui n'est plus formalisé de la même manière qu'à l'époque. À l'époque, effectivement, tout était temps égal argent, quasiment, où l'argent avait une notion de valeur travail ou de valeur quantifiée. Aujourd'hui, l'argent, en fait, totalement dématérialisé. Ce qui compte, c'est la célérité, la valeur de propagation. On le détruit, on le crée, c'est une ligne sur un fichier Excel. Les chiffres n'ont plus rien à voir avec la comptabilité réelle. Il prend vraiment connaissance physique au niveau... chez nous, des conseils régionaux, départementaux, ou alors des grands appels d'offres de l'État. Au-dessus, ce sont purement abstraites, électroniques. Donc on ne peut pas aller sur une vision d'il y a 200 ans qui était basée sur la valeur travail et sur des choses quantifiables qu'on pouvait vraiment toucher et évaluer. Par contre, ce qui va être intéressant chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé à formaliser son environnement et qui a posé des bases. Et puis les gens ont empilé ensuite... sur sa pensée. Donc il a une importance en tant que fondateur, on va dire, de la pensée d'aujourd'hui. Il ne représente pas la pensée d'aujourd'hui, mais il a aidé à la faire venir, à la créer.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'avantage absolu et l'autre idée de la division du travail qui a été mise en avant par Adam Smith? Est-ce que vous pensez que c'est des points positifs des réflexions qu'il a eues, ou est-ce que c'est des choses un peu négatives?
Il analysait son environnement, puis à l'époque de la révolution industrielle, tout le monde se rappelle de Charlie Chaplin, temps moderne, avec des gens qui faisaient des mouvements répétitifs, qui le rendaient complètement idiot. On avait le taylorisme aux USA, le stakhanovisme en Russie. La décomposition du travail, c'était une réalité de l'époque, qui n'était pas forcément très bonne pour l'être humain, je crois qu'il l'a formalisé aussi, et qui a tendance à disparaître aujourd'hui d'ailleurs. On dit que la machine remplace l'être humain, et parfois c'est bien, ça dépend pourquoi, comment.
RLP.
Pas de page publicitaire, mais un petit morceau, Monnaie, pour notre plus grande joie. À tout à l'heure. We'll be right back.
Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery.
RLP.
De retour sur RLP, rebonjour à Adam Smith. Donc, pour reprendre une idée que Stéphane défend régulièrement, on espère que plus tard la machine payera les mêmes impôts que les êtres humains.
Moi, ouais. Je suis favorable à ce que les machines cotisent. Ouais. Les machines, l'IA et les machines cotisent.
Ah, ça y en a quitté Adam Smith, là.
Je suis pas d'accord du tout. Alors, vas-y, pourquoi?
Je ne sais pas s'il faut aller à ça tout de suite, mais
non,
parce qu'il y a tellement de choses qui ont été mécanisées depuis le début de l'humanité que si on commence à demander aux roues des tracteurs de payer des taxes parce qu'elles ont remplacé les chevaux il y a 2000 ans, on n'en finit plus, tu vois. C'est le sens de l'histoire aussi, quelque part.
Non, mais la roue du tracteur, il y avait un conducteur dessus, quand même.
Ça dépend.
Oui, mais maintenant, si tu automatises tout...
Je sais pas, le camion d'aujourd'hui, il représente 600-800 charrettes de l'époque.
Mmh. Alors, tu vois, moi, je la trouve intéressante, cette question, parce que, pour moi, elle est au cœur de la morale ou de l'éthique qu'on pourrait y mettre aujourd'hui. Vraiment, toute sa réflexion, elle était très cadrée pour faire attention. Ouais, je trouve que c'est intéressant de pouvoir se projeter sur un remplacement du paiement des impôts des êtres humains aujourd'hui, de le remplacer par ce que produit une machine. Je trouve que c'est intéressant. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'effectivement, si une machine elle remplace 14 personnes, pourquoi elle ne payerait pas 14 impôts ça évite des trous dans des rapports.
Et surtout, si on se retrouve dans un système où il y a 14 personnes qui n'ont plus d'emploi, ces 14 personnes ne vont pas consommer. Si elles ne consomment pas, pourquoi produire ?
Ouais, ouais.
Ouais, mais là, on a fait un saut de plusieurs centaines d'années dans l'histoire et l'idéologie. Moi, je veux bien, mais d'abord, on va commencer par définir ce qu'est l'impôt. Hein. L'impôt, au départ, ce sont des gens qui sont plus forts que vous et moi, qui viennent et qui prennent une commission sur ce que vous avez. Il hein. ne faut quand même pas oublier que, d'une certaine façon, les gens de la noblesse étaient des grands chefs de gang qui ont soumis par la force les autres pour s'imposer et leur prendre leurs ressources afin d'en avoir une plus gros, enfin un château plus gros que les autres. Faut quand même pas oublier ça.
Je suis d'accord avec ta vision. Extrêmement
réaliste. Hein. Si on va en Australie, par exemple, la notion de TVA date d'il y a quelques dizaines d'années à peine. C'est-à-dire cette notion de prendre un pourcentage sur toutes les transactions qu'il y a parce que nous avons le pouvoir de le faire, et si vous n'êtes pas content, on vient chez vous et on vous force à le faire, c'est quelque chose qui est quand même, dans l'histoire de l'humanité, qui a deux fonctions. La première, c'est de prendre et de faire de la prédation par la force lorsqu'on est en situation de le faire. Et puis, en deuxième lieu, qui a aussi pour manière de contrôler le petit peuple afin de laisser aux gros le pouvoir de faire des choses que eux, ils peuvent éviter. Alors, si on va sur l'économie d'aujourd'hui, tiens, en 2023, tu as Alphabet, Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft qui ont reçu 3,4 milliards de dollars d'amende pour avoir enfreint les lois. Ça veut dire que le gouvernement américain dit un truc qui ne leur a pas plu, il a eu le pouvoir de le faire, il est allé prédater, il est allé leur prendre 3,4 milliards. Bon, en 2024, ils ont travaillé 7 jours et 3 heures pour rembourser, pour avoir assez de fonds pour payer l'amende. Donc il y a absolument, si vous voulez, la lutte entre ce pouvoir-là et les sociétés.
Aucun impact réel.
Le pouvoir se déplace. On parle d'impôt, mais le pouvoir se déplace. L'impôt, c'est l'État, et puis en fait, les sociétés, c'est le bénéfice, c'est le capitalisme, il y a très peu de moralité lorsqu'il est à grande échelle. Hein. On va rentrer dans une notion de si on veut faire un peu de philo, c'est entre le panthéisme et le hegélien, l'individualisme et la notion globale. La notion globale, c'est un peu la loi du plus fort. Puis au niveau individuel, c'est des gens qui sont là, qui essaient un petit peu de survivre, si tu veux. Pourquoi la machine, à mon avis, pourquoi les impôts sont improductifs? C'est parce que les gens comme toi et moi, en fait, ne peuvent plus maintenant mettre un établi dehors, aller vendre des pommes pour acheter une mobilette à leur enfant. Dès qu'on veut faire quelque chose, on est bloqué, ouvrir un restaurant, parce que c'est difficile, parce que ça déplaît à M. Courtepaille, ça déplaît à M. McDonald's, qui a décidé que les restos, c'est lui, qui a décidé que la vente des pommes, c'est lui, et lui pourra se payer ses avocats, et lui pourra faire du business intra-juridiction. Et en fait, la taxation empêche les gens du peuple d'agir, de se libérer par rapport à la tyrannie, avant des gouvernements très autoritaires, mais aujourd'hui des grosses boîtes internationales. Bon, tu vois, on a fait un certain pas de plusieurs centaines d'années là, dans l'idéologie et tout. On est assez loin d'Adam Smith, mais Adam Smith, il mettait les gens au cœur.
On n'y est pas si loin que ça.
Les gens sont toujours
justement
au cœur. Oui, tout à fait.
On va revenir dessus parce que je voudrais recentrer le débat sur Adam Smith et sur le capitalisme moderne. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour Adam Smith, il y a une règle impérieuse. Il faut qu'il y ait multiplicité de vendeurs et d'acheteurs. Les oligopoles et les monopoles, pour lui, son système n'est pas opérationnel s'il y a ne serait-ce qu'un oligopole ou un monopole. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'acheteurs, pas assez de vendeurs en face, le marché ne fonctionne plus, enfin, ne régule plus.
Ouais.
La détermination du prix, parce que le but du marché, c'est de déterminer un prix qui soit un prix éthique, on va dire, voilà, un prix où tout le monde s'y retrouve. Si on arrive à ces situations-là, il le dit clair, net et précis, c'est vraiment la condition sine qua non pour que le système fonctionne.
Et sur ça, il avait raison.
C'est un déséquilibre qui se met.
Oui, mais sur ça, il avait raison, en fait. Hein, sa parabole du boulanger, en fait, disant s'il y a plein de boulangers différents, ils vont travailler, se faire un peu concurrence. Donc, il instaure aussi le principe de concurrence. La concurrence est dans les gens à se surpasser et puis étant profitable, effectivement, au peuple de manière générale, parce que ça fait une égalisation des prix et puis ça fait une augmentation de qualité du produit. Et il dit, le jour où il n'y a plus qu'un seul boulanger, par contre, il va être un peu moins motivé, il y aura une baisse de qualité, et puis il va le vendre très très cher parce qu'il n'y aura pas de concurrence. Donc il apporte aussi cette espèce. Donc on arrive aussi à son époque, hein, la notion de. Le producteur n'est pas encore une grosse multinationale, ce qui n'existait pas, qui ne pouvait pas analyser à l'époque. Hein, il ne pouvait pas analyser le fait qu'un jour, une grosse société se mettrait en Pologne, commencerait à vendre des barils de pâtes à tous les boulangers du monde pour uniformiser les baguettes et puis après faire que plus personne n'ira pétrir son pain durant la nuit, et donc le prix et la qualité s'en ressent, parce qu'ils ne sont plus en compétition les uns envers les autres. Ils ne pouvaient pas le formaliser. Mais cette notion du marché, de dire que s'il y a une compétition entre diverses personnes, il va y avoir une augmentation de la performance individuelle, et donc
une émulation,
et puis ce sera bénéfique pour les gens, et c'est une idée qui est intéressante, hein. C'est un des premiers qui l'a écrit.
On était sur les points forts et les points faibles de ce que a théorisé Adam Smith. Je trouve qu'on n'a pas assez appuyé sur les points faibles.
Le point faible, c'est la fragilité du système où il ne faut pas de monopole ou d'oligopole. Si tu as des tentations monopolistiques, d'un côté comme de l'autre, ton système déraille, ton système ne fonctionne plus. C'est le point faible.
D'accord.
Voilà.
Du coup, autour de son organisation, Adam Smith, il aurait fallu poser quoi ? Des gendarmes de...
Déjà, il explique que tout ne peut pas faire partie du marché. Déjà, il y a des choses qui ne peuvent pas être dans le marché. Il t'explique que certaines choses doivent être exclues du marché, ce qui est pour le bien collectif, le bien commun.
T'as un exemple ?
Oui, il parlait à un moment du système bancaire où il disait qu'on ne pouvait pas le faire rentrer tel quel dans le marché, par exemple. Il y avait des contraintes. Sur le blé aussi. Alors, sur le blé, il le matérialise d'une certaine façon, mais ça me fera toujours penser dans les années 80 en Tunisie où ils ont libéralisé le prix du blé et Bourguiba a perdu le pouvoir. Donc, c'est des choses qui sont... Pourquoi le
prix du pain exactement, parce que c'est vital. C'est vital pour le bien collectif.
Bah, à l'époque, il n'y avait que ça et la patate, hein, je crois.
Oui, oui, oui. Donc,
Du coup, sur des produits de...
Ah non, même pas encore la patate, c'est après la découverte des USA, donc elle n'était pas encore arrivée, d'ailleurs. Il n'y avait que le pain et le blé. Ouais, ouais.
Donc, il ne faudrait pas de dérégulation, comme ça a été fait dans les années 80 chez nous. Il ne faudrait pas de dérégulation sur certains produits, sur certaines choses.
Oui, mais ces produits évoluent dans le temps. Je veux dire, si on libéralise le prix du pain, ce qui a été fait, puisque la baguette était un prix fixe jusqu'à la fin des années 70, je crois, dans les années 70, ça a été dérégulé, il ne va pas y avoir de révolte de pain du pain en France. Mais par contre, sur des choses plus substantielles, par exemple le riz, les pâtes et tout, si la nourriture finit par exploser, oui, risque de révolte, ça c'est sûr. Donc,
il y a eu. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des révoltes de la faim, bien sûr.
Des révoltes de la faim, oui, tout à fait.
Ah oui. Donc, mais qui n'était peut-être pas forcément dû à un manque de régulation, mais peut-être dû à l'histoire de l'impôt dont Steph nous parlait tout à l'heure.
Ou des conditions climatiques, ou tout simplement, parce que le monde est incertain. Voilà.
Alors, sur les conditions climatiques, aucun système économique ne peut rien y faire. Quoi. Si on se retrouve sans blé ou sans... ça sera...
Mais en fait, quand on y regarde bien, entre ce que Adam Smith a voulu poser avec un cadre, quelque chose de très organisé, très moralisé, et aujourd'hui, il en reste quoi d'Adam Smith aujourd'hui ?
Mais là, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu l'as contextualisé. Adam Smith, il arrive après Hobbes. Donc il insiste sur le pouvoir régalien. Il s'appuie encore sur une notion où c'est à l'État d'instaurer la paix civile, la paix sociale, et de mettre en place les conditions de bon fonctionnement de l'économie. Lui se repose, encore une fois, dans cette pensée anglo-saxonne, hein, qui est très, très, très libérale, mais sous la protection de règles minimales, mais extrêmement fermes, identifiables, et que tout le monde respecte. C'est la pensée anglo-saxonne d'origine. C'est la philosophie de Hobbes, et c'est ce que j'ai découvert, moi, lorsque je suis allé vivre dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de réfléchir qui est basée sur chacun est maître de soi, l'espace vital, la sphère individuelle est très importante. Tant que je ne t'embête pas, je fais ce que je veux, mais il faut qu'il y ait des règles le moins possible, mais le plus ferme possible, pour garantir la paix civile, justement, et les bons échanges. Voilà. Ça, c'est la grande différence entre la pensée latine, qui est très formalisée, très réglementée, et la pensée anglo-saxonne, qui aimera beaucoup moins la magouille, mais se basera sur des espaces comme ça.
Tu veux dire que la pensée latine, ça aime la magouille.
Bah, t'as déjà vécu en Espagne ou en Italie, toi Non, mais je veux dire, c'est notre nature, c'est notre culture, hein, quelque part. La France est en partie méditerranéenne, elle est aussi frontalière avec les Germains, elle est aussi frontalière avec les Saxons. Donc nous avons plusieurs courants de pensée, de culture qui se voient d'ailleurs Languedoc, Languedoy, les différents patois de notre pays. Mais nous sommes aussi influencés. Nous avons d'ailleurs notre droit, le droit Bonaparte et le droit latin. On sait tous qu'il y a une grande lutte entre le droit anglo-saxon et le droit latin, si tu veux. C'est le droit anglo-saxon qui est en train de gagner en ce moment, idéologiquement. Hein, mais la façon de réfléchir, les bases morales de formalisation et donc de faire des transactions et autres n'est pas forcément la même. Et Adam Smith se place dans ce 18e siècle anglo-saxon, avec la vision libérale anglo-saxonne, et rien que ce mot libéral, pour eux, n'a pas la même définition. Déjà à l'époque, n'a pas la même définition qu'aujourd'hui, mais n'a pas non plus la même définition dans la culture. C'est-à-dire que nous, on va employer des mots, des termes ici en France, qui n'auront pas la même signification, la même teneur, là-bas. Voilà, donc Smith, c'est intéressant pour parler, pour lancer les bases, justement, qu'est-ce que la régulation, qu'est-ce que le libéralisme, qu'est-ce que la dérégularisation, qu'est-ce que le rôle de l'État dans l'économie et les modes de transaction, de fluctuation de vie, en fait, par rapport aux gens. On peut y rajouter du multiculturalisme, on peut y rajouter de la globalisation, et puis on a, je pense, les éléments de pensée pour débattre. Enfin, il pose des fondations qui sont intéressantes, et déjà, le fait qu'on en parle 200, 250, 260 ans après, c'est bien déjà, hein, c'est pas mal. Hein.
Ouais, ouais. Bon,
Son côté très humaniste, il est très attaché à la rationalité des intervenants, des agents économiques. C'est quelque chose qui est très important, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que cette rationalité, je pense qu'on tente à nous la faire perdre.
Va plus loin là pour
moi. Alors, le capitalisme moderne, par le marketing, la publicité, tente à rendre le consommateur. Non rationnel. Pourquoi, pourquoi acheter tel t-shirt plutôt que celui-là ? Parce que c'est marqué Nike dessus, alors que c'est des produits strictement équivalents et qu'on va le payer 5-10 fois plus cher. On n'est plus dans la rationalité.
Ouais, faut, il ne faut pas croire qu'à l'époque,
dans la raison,
te vendaient une calèche, ils ne te mettaient pas la main sur l'épaule avec les mots qui plaisaient bien, tu vois. Mmh. Hein, ça, ça a toujours existé.
Oui, ton idée, c'est qu'on met moins de...
Pas à ce niveau. La publicité, depuis les années 20, 30 à peu près, a pris un tel... Enfin, publicité, marketing et tout, a pris un tel essor que je trouve qu'on n'est plus forcément dans la rationalité. Et moi, le premier, je ne me considère pas comme un saint, combien de fois on craque sur quelque chose parce qu'on est dans l'air du temps ou ceci, cela. Je pense que...
Est-ce que tu veux dire que notre rationalité aujourd'hui est plus basée sur des envies que sur des besoins?
Ce sont des pulsions. Donc, en fait, on n'est plus rationnel quand on est dans la pulsion.
Peut-être.
Mais moi, le premier, je ne me mets pas à part en disant je suis un saint. Non, pas du tout. Combien de fois, on peut tous se regarder, combien de fois on a craqué sur des pulsions d'achat pour des trucs parce que, voilà, on a été un peu conditionné par un message qui nous revient, par des messages qui nous reviennent.
Et du coup, lui était beaucoup plus sur une rationalisation par rapport à un besoin réel que par rapport à une envie. OK, le saut qui a été fait...
Je crois que ça... Okay. Voilà. C'est, à l'époque, on ne parlait pas de société de consommation, tu vois, à son époque. Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de société de consommation.
On va se faire une petite pause. Pas de page publicitaire, mais un petit morceau de Nino qui s'appelle Monnaie.
RLP.
Une vie d'un compliqué, je voulais des gros lovés, des billets colorés tout en vert. Une vie d'un compliqué, je voulais des gros lovés, des billets colorés tout en vert. Un amour monnayé, est-ce que j'irai là-haut ou j'irai tout en bas en enfer? Et j'ai jamais regretté, personne en un grand tas que personne ne voulait écouter. On a ramené la moulaga, y'a des bosseurs opés pour tartiner toute la journée. Et je suis dans le bloc, bébé, j'sais même pas si j'aurai le temps de t'aimer. Mes joies et mes peines posées sur le CD, et j'vais toujours me rappeler de ce qu'on s'est dit. Et les couteaux dans le dos transperceront mon cœur, pété sous vodka, j'oublierai tout. Et pour surmonter tout ça, fallait beaucoup d'honneur, faut que j'm'en aille avant que j'devienne fou. On aura tout voulu, on n'aura pas tout eu, malgré tout ça on était heureux. Je croyais qu'il était déchiré, mon cœur est recousu, mes blessures apaisées par l'euro. Je croyais qu'il était déchiré, mon cœur est recousu, mes blessures apaisées par l'euro.
Got it all now. Got that money in your pocket, blow it all now. Tell me how does it satisfy the empty kind of feeling I know you feel at night. Yeah, you've got it all now. Got that money in your pocket, blow it all. Oh, tell me how does it satisfy the empty kind of feeling I know you feel at night.
Une vie d'un compliqué. Je me devais de répliquer, elle s'est battue pour m'éduquer. Mais on m'avait dit que les ennemis reviendraient pour m'éradiquer. Donc je serais calibré, je vois des chiffres et des chiffres comme Galilée. Mais je suis resté humble, je sais pas de quoi est fait demain. On n'a pas toujours fait le bien, mais la famille est fière de moi. Et je préfère crever tout de suite plutôt que crier.
RLP.
À nouveau de retour sur RLP, est-ce que dans votre idée, l'économie aujourd'hui, elle s'est développée au fil du temps et elle en arrive aujourd'hui à avoir une recherche de, quelque part, de jusque-boutisme. Est-ce que...
Qu'est-ce que tu entends par jusque-boutisme ?
Dans la réflexion de départ de Adam Smith, c'était quand même de cadrer les échanges et ça en restait là.
Non, ça c'est nous qui l'avons rajouté, le fait de demander à un État protecteur et paternaliste de nous protéger de nos bas instincts et nos pulsions, ça c'est venu après.
D'accord.
Il parle uniquement de mettre en concurrence les producteurs et de faire en sorte qu'ils trouvent une satisfaction personnelle au niveau rémunération à faire leur travail comme il le faut.
Et quand il pose une morale dessus, il pose un cadre quand même.
Le cadre, c'est le bien-être des gens, si tu veux. Mais après...
Donc ça, c'est une régulation.
Il n'est pas dans la régulation soviétique ou ce qu'on voit encore en Asie, où on va dire on va fixer le prix du lait, on va fixer le prix des œufs.
Chez Adam Smith, la régulation, elle est naturelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle
par
est
rapport
naturelle.
Aux relations des gens.
Dans son environnement,
exactement.
18e, en Écosse.
Elle est naturelle, voilà. Les choses se font naturellement, l'équilibre doit se faire naturellement. Le système s'autorégule.
Mais en tout cas, comme lui, il le pose...
Il est censé s'autoréguler, quoi. Mais
Je ne suis pas certain qu'il le pose. Celui qui le pose, c'est celui qui vient après. Parce qu'après Adam Smith, il y a Malthus qui arrive. hein, et Malthus, c'est 1766-1834, alors qu'Adam Smith est mort en 1790. La conception de l'économie malthusienne, si tu veux, qui est basée uniquement sur les résultats, les chiffres, la productivité, qui est purement matérialiste, c'est une évolution d'Adam Smith et elle arrive après.
Ah, tu penses que c'est une évolution de, oui. d'Adam Smith ?
Oui, je D'accord. pense que Malthus est un descendant d'Adam Smith. En tout cas, la D'accord. pensée malthusienne repose, encore une fois, c'est un anglo-saxon, si tu veux, il se trouve qu'Adam Smith, qui à mon avis devait être d'un milieu social particulier, ou alors très bien encadré, parce que tu n'as pas une pensée qui s'émerge au niveau national à l'époque comme ça, sans que ce soit par hasard, tu vois, parce qu'on est encore à l'époque des chevaux, je ne sais pas s'il y a du savon, beaucoup de douches, il n'y a pas de voiture, bon, donc quelques universités, les penseurs, la pensée est gérée, on va dire, par quelques dizaines de personnes sur le pays. Donc lui, il est mis en avant, il y reste, et puis les gens pointus qui apparaissent après, forcément, ont accès à sa pensée à lui, s'en inspirent. Ouais. C'est de manière... ils ont forcément été cooptés et rentrés dans le système de cette manière-là.
Ah, c'est, donc, c'est intéressant, oui, de le voir comme la suite, parce que Malthus, je le voyais plutôt comme un personnage... un technicien, en fait, de l'économie.
Mais oui,
quelqu'un, tu vois, qui défendait la rationalisation, des choses comme ça.
Bah, il a mis en équation, en fait, ce que ceux d'avant avaient lancé en principes généraux.
Et qui n'était pas forcément un penseur ou un philosophe, mais plutôt un technicien. Je le voyais plutôt comme ça,
Malthus. Pourtant, Hobbes et Malthus, on les met ensemble. Hein, et Hobbes est le pur philosophe. Et la vision malthusienne, si tu veux, elle est très, très terre-à-terre.
Ouais, hein, je trouve vachement intéressant que tu le mettes comme ça, le chaînon qui suit Adam Smith. Je n'avais pas fait le lien, moi. Personnellement, je les avais séparés.
Et c'est pour ça qu'avant d'arriver à la notion de libéralisme telle qu'on l'entend, nous, en Occident latin, en 2023, il s'est passé plein de choses, hein, entre les deux, hein, énormément.
Hein. Oui, et notamment ça, parce que personnellement, je pense que c'est les techniciens qui nous font arriver à ce que Stéphane disait, à la société de consommation. Je pense que c'est les techniciens qui nous ont fait arriver là. Ce n'est pas les penseurs.
Après, Malthus a ses limites. Hein. Il a aidé, je pense, son époque à passer certains caps. Mais la pensée malthusienne a ses limites. Hein. On le voit aujourd'hui dans le fait qu'il ne prend pas en compte tout ce qui est dématérialisé, que forcément il ne pouvait pas connaître. Voilà, et...
Oui, dans une époque. Ouais. D'accord. Pardon, Stéphane.
Non. Juste une précision. On parle souvent de la main invisible concernant Adam Smith, la main invisible qui interviendrait sur le marché. C'est le côté nature. C'est-à-dire que la main, c'est pas la main des hommes. C'est le mécanisme qui naturellement se met en place. C'est pas une intervention par des règles. La seule règle qu'il ait vraiment, c'est il faut pas qu'il y ait de monopole, il faut qu'il y ait ni d'oligopole. Ça, c'est la règle. Et après, non. Suivant sa conception des choses, le prix d'échange se détermine en fait de lui-même. Enfin, ouais. Il devient évident pour les deux parties. Voilà.
Aujourd'hui, vous pensez qu'il reprocherait quoi, Adam Smith, à notre économie d'aujourd'hui ?
Alors justement, je vais y venir. À notre économie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a une très forte industrialisation, une société qu'on a appelée de consommation. On trouve une agrégation de capitaux de plus en plus importante. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se réfère à la loi de la gravitation universelle, le capitalisme a pris un peu la même voie, c'est-à-dire que la masse attire la masse, les plus grosses masses attirent les plus petites masses, les capitaux les plus gros ont attiré les capitaux les plus petits. On se retrouve dans un état comme ça, j'ai un chiffre comme ça, le Soleil représente 99,8% de la masse totale du système solaire. Google représente en France 90% du marché des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement de concentration qui est là. Or, ce mouvement de concentration, qui quand même, je crois, on sent, enfin, je ne sais pas si Stéphane me contradira dessus, il est quand même de plus en plus prégnant. On sent que les choses, quand on regarde le nombre, par exemple, d'hypermarchés qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on a connu dans les années 70, il y en a de moins en moins. Enfin, il y a, en nombre, ils sont toujours importants, mais d'entreprises derrière, il y en a de moins en moins.
Parce que tu es français.
Oui, mais on...
Je m'explique, tu vas en Allemagne, il n'y a pas de grande surface.
Ça c'est... Oui.
Tu vois, et c'est quoi ? C'est à 30, non, c'est à une heure de route. Donc, pour certaines parties de chez nous, c'est une heure d'avion depuis ici. Pour certaines parties de la France, on passe la frontière.
Prends les constructeurs automobiles, il y en a de moins en moins. Ils se concentrent de plus en plus.
Oui.
L'industrie aéronautique, ça se concentre de plus en plus.
Oui.
Tous ces domaines se concentrent.
Oui.
Et donc, ça fait une accumulation de capital de plus en plus importante. Et le problème, c'est que par rapport à notre bon vieil Adam Smith dont on parlait tout à l'heure, on se retrouve dans des situations à minima d'oligopole, voire de monopole.
Oui, mais ça, ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas voir que les grandes sociétés modernes...
Non, je pense très bien.
Mais c'est intéressant, je ne le voyais. C'est le fait que, justement, les structures privées, qui ne sont pas en train de gérer des populations, mais qui gèrent donc des entités morales, qui gèrent leur intérêt personnel, commencent à avoir plus d'importance et de force que les environnements qui, eux, sont censés justement assurer les droits régaliens. C'est un combat qu'on a perdu. C'est un combat qui s'est joué, on va dire, entre les 70 et 90. Et puis l'émergence, on a vu arriver l'émergence d'énormes sociétés multilocalisées, dont le poids financier était supérieur au PIB de nombreux pays. Et on arrive aujourd'hui maintenant à des bras de fer entre des grandes sociétés qui sont totalement impersonnelles, qui sont uniquement des choses abstraites, et des États censés protéger et représenter leur population. Et il est de moins en moins évident que ce soit les États qui gagnent ces bras de fer, d'ailleurs. Ça, c'est une grande nouveauté par rapport à l'époque d'Adam Smith.
D'accord. Et donc, toi, Stéphane, tu penses qu'Adam Smith, aujourd'hui, nous reprocherait cette situation de monopole?
Je
ne
sais pas s'il le reprocherait. Il constaterait que son système de marché ne fonctionne plus tel que lui l'avait conçu, de par le changement de la structure du capitalisme moderne.
Les droits régaliens n'étant plus assurés, forcément, son écosystème n'est plus valable.
D'accord. OK. Voilà. Alors, ce qui nous amène à la question, elle serait composée de quoi une bonne économie pour vous?
Je pense qu'on a... Je n'ai pas de réponse. Enfin, celui qui le sait...
On a le regard d'un international de l'économie avec nous, pour toi. Parce que moi, je garde bien en tête ce que tu as dit au départ de l'émission sur cet aspect anglo-saxon et au milieu de d'autres aspects culturel, les Chinois, pour toi, vu que c'est globalisé aujourd'hui l'économie, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une bonne économie? Est-ce qu'il y a deux, trois points qui sont un peu clairs pour toi?
Si j'étais Dieu...
Tu l'es, je te donne cette place.
On va commencer comme ça, parce que je ne vois pas qu'on pourrait faire autrement.
J'ai la soutane, si tu veux.
Si j'étais Dieu, je ferais en sorte qu'il ne soit pas possible d'atteindre une certaine taille d'impersonnalisation afin de remettre les choses à valeur humaine. Par exemple, tu vas au Brésil. Voilà, j'ai un ami qui est au Brésil, qui vit au Brésil depuis 30 ans. C'est un entrepreneur. C'était le plus grand importateur de produits brésiliens en France. Il était dans le milieu du football, tout ça. On avait fait des sifflets avec plein de trucs et tout. Il m'explique qu'au Brésil, il a ce qu'on appelle la justice de proximité. Justice de proximité, sa femme utilisait WhatsApp pour son métier en tant qu'outil de communication. Et puis un jour, ils lui ont supprimé son compte WhatsApp comme ça, parce que, soi-disant, il y a un truc qui ne leur a pas plu. Et ça l'a impacté, elle, dans sa vie personnelle. Justice de proximité, elle a porté plainte auprès du juge de proximité. En moins de cinq mois, WhatsApp a été forcé à lui rendre son numéro de téléphone et son accès. Et elle a eu l'équivalent de 3 mois et demi d'un SMIC local en indemnité. Ça, c'est quelque chose qui replace l'humain au centre, si tu veux. C'est pas la loi du plus fort. En fait, l'ennemi de l'humanité, et c'est ce que moi j'aime beaucoup, Hobbes, si tu veux.
Tout à fait. C'est la loi du plus fort.
J'aime beaucoup Hobbes, qui décrit la nature humaine et qui décrit ce besoin d'autorité désincarnée qui n'a pas d'intérêt personnel à assurer l'autorité. Le problème étant lorsque l'autorité est corrompue ou un intérêt personnel est impliqué, ce n'est plus une autorité qui est bénéfique pour le peuple, mais l'intérêt, c'est l'être humain, c'est l'homme, c'est pas la personne morale. Pour faire du business, on dit qu'il faut faire une personne morale qui est reliée à des personnes qui sont réelles, mais je suis désolé, l'important, c'est toi, moi, lui, c'est nous qui sommes importants. Le truc abstrait, marqué 3 initiales dessus, qui va te mettre du monde, on s'en fout parce qu'il n'est même pas respectueux des gens qui bossent pour lui. C'est une personne... Donc, idéologiquement, je serais sur cette ligne-là. Mais ça, il ne pouvait pas le dire à l'époque, à 300 ans.
Et pour toi, Stéphane ?
Exactement la même chose. Okay. C'est-à-dire que... tu prends, par exemple, Rousseau qui, lui... Alors, parce que nous, on est français, on nous met toujours Rousseau à toutes les sauces. L'homme est naturellement bon, c'est la société qui le pervertit. Hobbes disait, non, l'homme, s'il n'y a pas la société pour le modérer, s'il n'y a pas... Il va s'entretuer.
Il est sauvage.
Hein ?
Il est sauvage.
Mais nous avons une partie de nous qui est
sauvage.
Mais d'où l'intérêt d'apprendre à se contrôler. On parlait des pulsions tout à l'heure dans les magasins. Je suis désolé de dire aux gens que ça aide aussi de se contrôler, tu vois. Hein,
mais je suis tout à fait d'accord. Je constate un état fait.
Après, c'est le jeu. Oui, mais j'aime bien mettre un petit briquet de temps en temps pour que ça remonte un petit peu. Je vais dire, si moi je m'écoutais, je mettrais toute ma fortune dans ci ou ça. Et puis après, c'est la cigale et la fourmi, tu vois. La fontaine, la cigale et la fourmi n'a pas attendu l'invention du marketing de masse pour exister. Donc après c'est Darwin, tu vois, hein, ou la marque. Hein. C'est à nous aussi de nous adapter à notre environnement.
Et aussi, le problème qu'on peut aborder, c'est on demandait quelles sont les solutions et tout. Il y a des gens très à gauche, on va dire, tu vois, surtout en France, mais bon...
Non, je vois pas qui.
Non, tu vois pas qui.
Tous mes copains de droite, ils me traitent de gauchiste, c'est une horreur.
Ah ouais.
Tous mes potes de droite, ils me traitent... Bon, pardon.
Ben moi, tous mes potes de gauche, ils me traitent de facho, alors.
Ah ben voilà. Mais en fait, t'es comme moi, t'es anglo-saxon. Et c'est un point de vue qui n'existe pas dans le paysage politique francophone. Qui n'existe plus depuis une trentaine d'années. Le libertarien, tel que ce mouvement de pensée libertarien qui est apparu chez les anglo-saxons, qui descend directement de Hobbes, de Locke, de Malthus, d'Adam Smith, tout ça, qu'on voit beaucoup aux USA, n'existe pas dans l'offre électorale et le paysage politique français.
Oui, surtout que maintenant que Trump a pris l'image du libertarien type...
Et c'est pas forcément un cadeau pour nous, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément le meilleur. Mais après, il représente beaucoup de choses, et puis... on est aussi victime du fait que la France est devenue l'enfant de la gauche américaine au niveau des médias. On n'a pas forcément deux médias. En France, ils ont plusieurs sons de cloche suivant les médias. Nous, on n'en a qu'un seul. Donc après, on fait des conclusions sur des endroits où on n'a pas forcément vécu et la mondialisation, on ne la comprend pas. Moi, quand j'étais en Asie, j'étais sous influence sino-russe. J'ai baigné 6 ans, 7 ans, en lisant l'actualité, les discussions dans une ambiance d'influence sino-russe. Quand je suis arrivé ici, j'ai mis plusieurs mois pour me réadapter à ce que les gens étaient fous, quoi. Tu vois, c'était... Donc il faut faire attention aussi quand on se met à analyser ce qui est outre-Atlantique avec le regard d'informations qu'on a ici. Elles sont un peu dénaturées, elles sont un peu...
RLP.
Pause musicale avec Fabien S.E.S. Le morceau PIB.
Les nations prennent conscience des limites du PIB qu'on appelle dans le métier les externalités. L'air et l'eau sont pollués, les ressources disparaissent. Pour nos enfants, dis-moi, qu'est-ce qu'on laisse ? Durable ou soutenable, c'est la même notion. Ouais mais mec, en fait il y a deux dimensions. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de demandes à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte juste. Plus de produits intérieurs bruts. Dans les mers, les océans, de moins en moins de poissons.
De toute façon, dans le futur, on aura l'aquaculture.
Avec leur savant modèle théorique, les économistes
nous vantent les bienfaits du progrès technique.
Les innovations majeures seraient la conciliation
entre croissance économique et conscience écologique. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de demandes à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte juste. Plus de produits intérieurs bruts.
La soutenabilité forte, c'est une autre vision.
La biodiversité serait non négociable.
Sans modification de nos modes de consommation.
La disparition des espèces devient inévitable.
Rien ne pourra remplacer le capital naturel.
Tout ça va faire de la terre une vaste poubelle.
Quand le climat sera totalement déréglé,
Même le progrès technique ne pourra rien changer. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte juste, plus de produits intérieurs.
On revient sur Adam Smith et l'économie de marché.
RLP.
Il y a une idée d'un économiste qui s'appelle Langlais. Il passe des fois sur BFM, il est sur les chaînes publiques. Il met en avant que l'économie du futur, en fait, c'est une forme anarchique de l'économie. Ça tient compte, en fait, des lieux et des cultures des endroits. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'une économie anarchique qui est pas forcément...
Je suis intimement convaincu qu'il faut toujours qu'il y ait un peu de bordel. Que c'est là qu'on vit le mieux, parce que lorsqu'on tente de trop organiser l'humain, l'humain est imprédictible, les humains ne sont pas identiques les uns les autres. Le fait de vouloir mécaniser l'être humain, de le modéliser, de prévoir à l'avance ce qui est bien pour lui, a toujours été une catastrophe dans notre histoire. Ça ne marche pas. Il faut toujours, à mon avis, il faut toujours un peu de marge. D'ailleurs, dans les pays émergents, que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie, on ne formalise pas le fait de faire du business ou de faire une activité lorsque c'est pour son cadre personnel. Si tu veux faire ta petite épicerie, vendre ta petite production locale, donc c'est pour tourner toi et ta famille, bah t'as pas de taxes, t'as pas de TVA, t'as pas de machin, t'as pas de papier. Quand ça prend une certaine envergure, ça commence à empiéter, si tu veux, sur le système collectif. Là, tu vas rentrer dans l'informalisation. Et cette chose-là fait que les gens vont pouvoir se nourrir et puis faire ce qu'il faut. Quand tu vas commencer à trop réguler, à trop mécaniser, tu vois, en Union soviétique, à l'époque, des fois, il y avait des œufs, des fois, il n'y en avait pas. Des fois, il y avait du lait, des fois, il n'y en avait pas. On avait pensé qu'à l'époque, ça ce serait bien, et puis on allait faire des chaussettes pour 10 ans. Ah, t'avais pour 10 ans de chaussettes, mais t'avais pas de slip. Ça s'est jamais bien passé comme il faut. Voilà. Et garder la possibilité de plusieurs offres pour que la meilleure offre nous reste à nous.
Alors, je suis parfaitement d'accord avec toi. Oui. Parce que quand on voit, par exemple, la microéconomie telle qu'elle est enseignée en France, c'est tout doit être rationalisé sous forme de fonctions, d'équations, de fonctions, tout est modélisé. Tout doit être modélisé. Enfin, c'est vieux. Vous allez à l'échec. Personne ne peut modéliser le comportement humain. Or, l'économie, c'est la science qui étudie les échanges entre les humains.
Non, c'est le niveau d'abstraction qui dépasse le côté physique que nous avons. Nous nous retrouvons, nous, à travailler pour des choses abstraites qui, elles, ne sont pas dans l'humanité.
Quoi. Mais
Oui, c'est ce qui me fait dire aussi que tu ne mécanises pas l'être humain. Ça ne marche pas.
T'as donné une marque IBM, faut en donner deux autres. Nesquik, du reste.
Ouais, bon, Apple, c'est mieux que Microsoft, et puis Netscape, c'est bien, et puis Internet Explorer, c'est pas bien, et voilà. Bon. Voilà, vive Linux, et youpi.
Alors, du coup, si je comprends bien, dans vos réflexions, vous arrivez un petit peu à la même chose. L'économie, c'est pas à définir, en fait, c'est juste à accompagner par des voies éthiques.
Est-ce que l'homme a la prétention de refaire la physique de l'univers ?
Non. S'ils pouvaient arriver à la comprendre déjà.
Ouais, voilà. Déjà, s'ils pouvaient. Ben, la même chose en économie. Puis, déjà ils pouvaient comprendre vraiment ce qu'est l'économie.
Se passer des années, des dizaines d'années avant qu'on comprenne vraiment ce qui se passe dans l'intégralité des échanges humains.
Ouais. D'où la célèbre phrase de Mitterrand. Il n'a pas dit que des bêtises. Il disait de toute façon, j'ai compris qu'une seule chose, c'est que les économistes n'ont rien compris à l'économie. Parce qu'en fait, chaque fois, vous allez avoir quelqu'un qui va arriver avec sa grande théorie et tout. Enfin, je veux dire, voilà.
Oh, je sais pas. Moi, je connais un ancien conseiller du président qui, après le mandat de celui-ci, est allé en Angleterre pour monter un fonds d'investissement à plusieurs milliards de dollars. On se demande où ils ont trouvé l'argent pour le faire. Ouais. Il avait compris des choses à l'économie, lui.
Oui, tu parles d'Attali, je pense, non ?
Ah, la main. Non, Attali n'a jamais été un économiste. Et puis après, moi, j'ai un point de vue qui est très simple. Hein. Quitte à dormir dehors, autant que ce soit dans une Jaguar que sur un vélo.
Oui, hein. C'est sûr.
Bon, c'est plus confortable. Hein.
Oui, d'ailleurs, il est assez alarmiste sur l'économie, Attali.
Alors, Attali, on lui fait aussi le grand reproche de...
La guerre civile permanente.
Alors, on prend des extraits d'Attali et on dit souvent, c'est ça qu'il veut. Il est peut-être devenu aussi le réceptacle d'une certaine protestation et contestation, alors que le pauvre gars, pas forcément, tu vois, c'est pas lui qui décide non plus. Hein, c'est...
On va arriver à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des sujets, vous, que pour clore l'émission, que vous voudriez aborder ?
Ouais, foutez-nous la paix, laissez-nous entreprendre et mort aux impôts.
je dirais, d'entendre des néo-capitalistes et des néo-libéraux dire le marché, le marché, le marché, vu ce qu'ils en ont fait, ça ne me convient pas. Mais je n'ai pas de solution à apporter, par contre, là. Je suis désolé, je ne suis pas Attali, je n'ai pas de solution à apporter.
Oui, et puis allez faire vos courses, parce que si on parle du marché, là, vu qu'il n'y a plus de voie pour aller alimenter les magasins, je suggère à quelqu'un un petit sac de riz, là, chez lui.
Donc, bah, voilà, c'était une émission sur l'économie. C'est très complexe, quand même, l'économie. Il faudrait pouvoir faire 3-4 heures dessus.
Ah oui, si. Et l'aboutissement logique de tout ceci, c'est le survivalisme.
Tu crois ?
C'est la recherche de l'autonomie et de l'indépendance.
Ah !
Mais oui, quelque part, parce que pour ne pas dépendre de personnes, d'entités qui vont essayer de t'imposer leurs règles commerciales en passant à côté des droits régaliens et de ta protection, eh ben, c'est à toi d'essayer de trouver ton petit espace avec ton petit jardin, tes voisins, ton voisinage, ton milieu social, ton groupe, en fait, pour essayer d'avoir, de te faire ta vie, ton indépendance, en essayant d'éviter qu'une force extérieure vienne te contraindre ou t'empêcher de faire des choses très intrusives. Voilà. Ouais, mais donc l'aboutissement de ça, c'est le surréalisme.
Si tu...
La collapsologie et puis l'indépendance, autonomie.
Voilà. Le problème, c'est que si tu poses les choses à leur paroxysme, tu vas te retrouver à ce que tu disais de Hobbes, homo homini lupus. C'est-à-dire que si tu en viens à te dire, moi je suis complètement autonome, tout seul dans mon coin...
Mais non, j'ai parlé de tes voisins, de ton groupe, ta communauté.
Oui, voilà.
C'est très important.
Ça, c'est
très,
voilà.
Très important.
Donc, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas le survivalisme.
Non, mais dites bonjour à vos voisins, ouais. Rendez-vous service quand vous avez besoin. Connaissez les gens de votre village, parce que le jour où il y aura un problème, vous serez ensemble, les gars. Hein. Donc, voilà, c'est important, ça.
Bon, faudra quand même qu'il y ait un cadre posé, parce que la loi du plus fort, elle peut vite s'installer.
Sinon. Mais ils le poseront naturellement par expérience. Et puis, si tu veux, l'État actuellement, c'est lui qui a l'autorité de la violence. Si le jour où il n'y aura plus d'État, tu verras que tu auras aussi des ministres, tu auras aussi des chefs de guerre. On l'a vu dans un pays d'Amérique latine il n'y a pas très longtemps, lorsque la mafia s'est évadée de prison, il y a eu empoignade entre le pouvoir de la mafia et le pouvoir politique. Ça, c'est l'histoire de l'être humain. Hein. Après, peut-être que le pouvoir politique est plus policiers, quoique, et encore, ça dépend, c'est une question de vue.
Ça dépend des
ils ont aussi des sacs de sport remplis d'argent en liquide.
On demandera à Cahuzac pour ça.
Absolument.
Alors, c'était pas une émission simple, mais bon, Adam Smith, c'est quand même un socle, une base de réflexion, c'est pas un saint.
C'est un bon point de départ.
Ouais, c'est un point de départ, c'est pas un saint, c'est pas la seule référence, mais bon, c'est une base de départ, voilà. Qui voudra l'entendre, ça n'est pas ça que nous prenons dans l'émission, mais on était obligé de passer par cet aspect pour expliquer un peu l'économie et pour pouvoir faire aborder la suite de l'émission, parce que la prochaine, ce sera sur un monde nouveau, et il fallait comprendre un petit peu ce qui se passe en économie pour pouvoir réfléchir à un monde nouveau. Donc, merci à vous. Ah, d'abord, est-ce que vous avez des lectures à donner aux auditeurs et aux auditrices ?
Non, pas particulièrement.
Oui, Kleptocratie française d'Héloïse Banamou, qui nous enseigne que tout ce qui est sécurité sociale et URSSAF en France est absolument une fraude totale. Ce sont des sociétés qui n'ont même pas été déposées correctement, qui ne sont pas, en fait, des organismes d'État et qui devraient donc être ouverts à la concurrence européenne. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant de regarder, en fait, tout le corps de protection sociale et toutes ces sommes qu'on engloutit dans ce système-là, pour un argent qui, on l'a dit d'ailleurs, n'a plus absolument aucune valeur, en fait, ne sert qu'à empêcher les indépendants, les petites boîtes, les petits commerçants d'aller empiéter sur le terrain des grosses structures. Donc, Héloïse Benhamou, Jardin des Livres, Kleptocratie française. Si vous comprenez ça déjà, vous aurez une grille de lecture différente sur notre monde aujourd'hui.
Pour une des bases de réflexion sur Adam Smith, il y a une bande dessinée qui est sortie il y a 4 ans, je crois, qui s'appelle La richesse des nations, qui est une reprise de son livre original. Et il y a un autre bouquin dont je ne l'ai pas lu, je vais être honnête, hein, mais j'ai lu le pitch dessus et j'ai lu à quoi ça faisait référence. Ça s'appelle « La théorie des sentiments moraux ». Adam Smith était vraiment quelqu'un qui était préoccupé par la morale. par les êtres humains. Donc faites-en ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. Je ne vais pas vous appeler les Stéphane, mais Steph et Stéphane. Merci pour vos réflexions. Merci de nous avoir écoutés et bonne continuation.
Merci, à bientôt tout le monde.
Au revoir. C'est lui et
moi c'est moi. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Big Bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Crâne, au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une bourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.